VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Claire Moragibour avec vous. Bienvenue dans le monde aujourd'hui. Au sommaire ce soir. Les soldats ougandais se déploient dans l'est de la RDC avec l'accord de Kinshasa pour combattre les rebelles ADF. Le gouvernement éthiopien affirme avoir repris plusieurs localités aux rebelles tigréens. Dernière ligne droite avant la présidentielle en Libye, mais la tenue du scrutin doit passer par plusieurs obstacles. Journée mondiale de lutte contre le sida. Le président américain présente une stratégie pour mettre fin à l'épidémie d'ici 2030 aux États-Unis. Également dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports. Mais d'abord, le journal. Les troupes ougandaises engagées dans l'opération lancée contre les rebelles des ADF dans l'est de la République démocratique du Congo s'est renforcée ce mercredi avec le déploiement de l'armée de Kampala. L'Assemblée nationale congolaise a entériné hier l'intervention ougandaise. Le point avec Nanit Talani.
Ils sont en train d'arriver avec des autos blindés. Ils sont à bord accompagnés de membres des services locaux de sécurité, a indiqué Tony Kitambala, journaliste basé à Nobili, à la frontière entre la RDC et l'Ouganda. Selon un haut responsable militaire congolais, des renforts ont été dépêchés vers Beni, chef-lieu du Nord Kivu. Aucune indication n'a été fournie sur le nombre de soldats ni la durée de leur mission, encore moins sur le déroulement et le commandement des opérations présentées comme conjointes et concertées par Kinshasa et Kampala contre un ennemi commun. Parlant des bombardements d'hier, la porte-parole de l'armée ougandaise a assuré que les cibles ont été atteintes avec succès. Son homologue congolais a affirmé que des opérations de fouille et de contrôle sont menées au sol. La presse congolaise a rapporté que les députés réunis hier en plénière ont soutenu les opérations conjointes. Ils ont aussi autorisé la troisième prorogation de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri.
En Éthiopie, les autorités affirment que les forces pro-gouvernementales ont repris Shewa Robit à environ 220 km d'Addis Abeba. La semaine dernière, les rebelles tigréens ont revendiqué avoir pris le contrôle de cette localité. Nous faisons le point avec Yakuba Ouedraogo.
Sur le front des Shewa, Mozezo, Molale, Shewa Robit, Rassa et leurs environs ont été libérés. Des terroristes du TPLF déclarent le porte-parole du gouvernement, Legesse Toulou. Il a assuré que le gouvernement reprendrait dans un court laps de temps les villes Amara de Dessie et Lalibela prises par les rebelles en août. La semaine dernière, le premier ministre Abiy Ahmed a dit se rendre au front pour mener la contre-offensive contre les rebelles tigréens. En juillet, les rebelles ont repris l'essentiel du Tigré, puis avancé dans les régions voisines de l'Afar et de l'Amara. Depuis novembre, ils ont affirmé contrôler les villes de Dessie et Kombolcha, carrefour stratégique sur la route menant à la capitale. Ces derniers jours, les médias d'État ont diffusé des images du premier ministre Abiy Ahmed en uniforme dans ce qui semble être la région de l'Afar. Dimanche, ces médias ont affirmé que l'armée contrôle la ville Afar de Chifra. En près de 13 mois, selon l'ONU, la guerre a fait plusieurs milliers de morts, plus de 2 millions de déplacés et plongé des centaines de milliers dans des conditions proches de la famine.
Le gouvernement éthiopien vient d'annoncer que les forces pro-gouvernementales ont également repris le contrôle du site de Lalibela, qui était passé en août sous le contrôle des rebelles de la région du Tigré. Au Sénégal, un tribunal de Dakar a renvoyé au 2 mars le procès en appel de Barthélémy Diass, farouche opposant au pouvoir et candidat à la mairie de Dakar. Monsieur Diass doit répondre en appel avec d'autres prévenus de la mort en 2011 d'un lutteur proche du régime, Ndiaga Diouf, abattu par balle dans un contexte de violence politique. Par ailleurs, la capitale sénégalaise Dakar est paralysée par une grève de 2 jours dans les transports pour protester contre les tracasseries des forces de l'ordre et le transport clandestin. Des localités en province ont été touchées par cette grève déclenchée par 14 syndicats des transports routiers. À Dakar, seuls quelques bus de la société publique de transport Dakar Demdik ont été en circulation. En visite au Burkina Faso, la haute commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, a jugé essentiel ce mercredi à Ouagadougou que les auteurs de violations et d'abus soient traduits en justice au terme d'une visite de 4 jours dans le pays. Au Nigeria, les autorités de l'État de Lagos, la capitale économique, ont rejeté les conclusions d'une commission chargée d'enquêter sur la répression des manifestations contre les violences policières en 2020, affirmant qu'il n'y a pas eu de massacre et qu'une seule personne est morte. Selon cette commission, l'armée puis la police ont ouvert le feu sur des manifestants pacifiques le 20 octobre 2020 au péage de Lekki et 11 personnes sont mortes. Le Nigeria a annoncé avoir détecté 3 premiers cas du variant Omicron chez des voyageurs en provenance d'Afrique du Sud la semaine passée. Le Ghana, pays voisin, a également annoncé ce mercredi avoir détecté ses premiers cas d'Omicron chez des voyageurs en provenance du Nigeria et d'Afrique du Sud, qui est le premier pays à avoir officiellement notifié l'apparition de ce variant à l'OMS le 24 novembre. Ces annonces interviennent alors que le président sud-africain Cyril Ramaphosa se trouve à Abuja, la capitale nigériane, première étape de sa tournée en Afrique de l'Ouest. Lors d'une conférence de presse, le président sud-africain a dénoncé les restrictions mises en place par de très nombreux pays à travers le monde à l'encontre de l'Afrique australe. C'est une pandémie globale et la surmonter requiert que nous collaborions et travaillions ensemble comme un collectif, a ajouté M. Ramaphosa, précisant que l'impact économique de ces restrictions sera considérable. En Libye, c'est la dernière ligne droite avant la présidentielle du 24 décembre. Les candidats sont connus, mais la persistance des désaccords entre camps rivaux font planer un doute sur sa tenue. La Cour d'appel de Tripoli a rejeté 2 recours contestant la candidature du chef du gouvernement intérimaire, Abdelhamid Deiba. Eric Manirakiza.
Ces recours ont été déposés par d'autres candidats, dont l'ex-ministre de l'Intérieur Fatih Bachaga, au motif que M. Deiba n'avait pas démissionné de son poste 3 mois avant le scrutin, comme l'impose la loi électorale. La Cour d'appel de Tripoli avait déclaré recevables les recours, mais a jugé que le Premier ministre pouvait rester en lice. Riche homme d'affaires originaire de Misrata dans l'Ouest, Abdelhamid Deiba, 62 ans, a été désigné en février dernier Premier ministre par intérim. La présidentielle du 24 décembre, suivie un mois plus tard d'un scrutin législatif, sont censées tourner la page d'une décennie de conflits. Mais mardi, le ministre de l'Intérieur, Aled Mazène, a reconnu ne pas être en mesure de sécuriser le processus électoral après une série d'incidents dans la ville de Séba. Des partisans de l'homme fort de l'Est, Khalifa Haftar, lui-même candidat, ont bloqué l'accès au tribunal pour empêcher Saif al-Islam Kadhafi, fils de l'ancien leader libyen, de faire appel du rejet de sa candidature. La commission judiciaire chargée d'examiner son recours a finalement décidé mardi de reporter sine die ses conclusions.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, la Maison-Blanche a présenté ce mercredi, à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida, une stratégie visant à mettre fin à l'épidémie d'ici 2030. Mohamed Oumfa nous en dit plus.
Le président Joe Biden doit évoquer aujourd'hui les grandes lignes de cette stratégie qui vise à réduire de 75% d'ici 2025 le nombre d'infections par le VIH et de 90% d'ici 2030. Selon une feuille de route présentée par son administration, il s'agit de mettre en place une approche plus coordonnée et plus intégrée. En plus de prévenir de nouvelles infections, cette stratégie doit aussi améliorer la qualité de vie des 1,2 million de personnes séropositives aux États-Unis, en particulier les plus âgées. Outre la dimension médicale, l'exécutif américain veut également prendre en compte des facteurs sociaux tels que les difficultés d'accès au logement ou l'insécurité alimentaire qui peuvent jouer sur le diagnostic ou les traitements. L'administration Biden entend également considérer le racisme comme une menace pour la santé publique dans la mesure où les discriminations affectent l'accès aux soins ou le risque de contracter le sida.
Par ailleurs, les États-Unis ont évoqué ce mercredi des preuves montrant que la Russie envisage d'importants actes agressifs contre l'Ukraine et promis de lui faire payer un prix élevé si elle passe à l'acte. Au terme d'une réunion de l'OTAN à Riga, le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a accusé Moscou de réunir des dizaines de milliers de soldats supplémentaires près de la frontière. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est le Minute Éco avec Nanit Talani.
Le FMI a approuvé la première revue du programme surveillé de la Guinée-Bissau qui soutient le plan de réforme du gouvernement visant à soutenir la stabilité macroéconomique et la viabilité de la dette, à renforcer les politiques sociales et à améliorer la gouvernance publique. Selon le FMI, les autorités de Bissau ont fait des progrès satisfaisants vers l'établissement d'un bilan solide de la mise en œuvre des politiques et des réformes qui pourraient aboutir à un éventuel accord de facilité élargie de crédit. La Mauritanie et le Sénégal ont lancé ce mardi les travaux de construction du pont de Rosso qui va relier les deux pays en jambant le fleuve Sénégal sur 1,5 km. Le pont permettra de réduire les temps de trajet, baisser les coûts de transport, tripler le commerce transfrontalier, faire progresser les échanges commerciaux le long des corridors Tanger, Lagos et Alger-Dakar et assurer l'intégration entre l'Afrique de l'Ouest et le Maghreb. Pour terminer, le Soudan enregistre une récolte record grâce au programme de technologie agricole de la BAD qui a touché 10,6 millions d'agriculteurs en 2020, les aidant à accéder à de meilleures semences et à une formation technique. Ce soutien leur a permis d'augmenter les revenus et les rendements de blé qui, pour plusieurs, sont passés de 2,5 tonnes à 5 tonnes. Le projet leur a donné aussi accès à une nouvelle variété de blé qui résiste à la chaleur.
Et maintenant, la page sport présentée ce soir par Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. Nick Mwendwa, de nouveau inculpé pour corruption, quelques jours après que la justice kényane a renoncé à le poursuivre, accusé d'avoir détourné 38 millions de shillings, environ 300 000 euros, versé par l'État et des sponsors, le patron de la Fédération kényane de football nie toutes les charges pesant sur lui. Il est poursuivi pour détournement de fonds publics et complicité de corruption. En attendant sa prochaine comparution prévue pour le 20 décembre, il a été libéré sous caution. Il lui est interdit de quitter le pays, d'accéder au bureau de la Fédération et d'entrer en contact avec des témoins. Mwendwa, 42 ans, a été arrêté le 12 novembre après que le gouvernement a limogé tous les dirigeants de la fédération qu'il dirigeait depuis 2016. Jeudi dernier, un tribunal a classé l'affaire faute de preuves, mais il a été arrêté à nouveau le lendemain. Ici, en MLS, le New York City FC est qualifié pour la finale de la conférence Est. Le club new-yorkais a éliminé au tir au but New England, la meilleure équipe de la saison régulière dans les playoffs de la Ligue américaine de football. Les New-Yorkais se sont imposés 5-3 lors de la séance de pénalty après un match nul 2-2 après prolongation. New York affrontera Philadelphie dimanche en finale de conférence pour tenter de décrocher une place pour la finale de la MLS face à Salt Lake City ou Portland, les deux finalistes de l'Ouest qui s'affrontent samedi. NBA, les Phoenix Suns engrangent une 17e victoire de rang en s'imposant 104-96 face aux Warriors de Stephen Curry dans le duel au sommet entre les deux meilleures équipes du début de saison. Avec cette 17e victoire d'affilée, les Suns égalent un record de franchise qu'ils auront l'occasion de battre demain face aux Pistons de Détroit dans le derby new-yorkais entre les Knicks et les Nets de Brooklyn. Ce sont les Nets qui l'ont emporté au bout du suspense 112-110. Dans les autres matchs, les Lakers ont dû se passer de LeBron James, écarté en raison du protocole sanitaire sans qu'il n'ait été précisé s'il est positif au COVID-19 ou cas contact. Ils ont néanmoins balayé les Kings de Sacramento 117-92. À retenir aussi la victoire des Grizzlies de Memphis à Toronto 98-91 et de Portland face à Détroit 110-92. Athlétisme, les mondiaux en salle en 2024 se dérouleront à Glasgow en Écosse, annonce ce mercredi la Fédération internationale d'athlétisme à l'issue de son conseil. Glasgow a accueilli en 2019 les championnats d'Europe indoor. Ce sera la troisième grande compétition internationale en salle à se dérouler sur le territoire de la Grande-Bretagne en l'espace de 6 ans. La ville de Birmingham ayant organisé les mondiaux en 2018, la prochaine édition des championnats du monde est prévue du 18 au 20 mars 2022 à Belgrade, en Serbie.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Claire Morin-Gibourg, toujours avec vous. Place au dossier du jour. Les électeurs gambiens se rendent aux urnes samedi pour élire leur président. 6 candidats, dont le sortant Adama Barrow et le principal opposant Ousseynou Darbo, sont en lice. L'ancien chef de l'État, Yahya Jammeh, qui vit en exil en Guinée équatoriale, a rejeté l'alliance de son parti avec son successeur. Il a plutôt apporté son soutien à Mama Kandé, le candidat du Congrès démocratique gambien. À la veille de la fin de la campagne, Abdourahmane Dia a joint à Banjul le journaliste Amadou Barry.
Pendant 3 semaines, les candidats ont sillonné le pays de l'intérieur et là, ils sont tous revenus dans la capitale. Alors, les meetings se multiplient. Les candidats jettent leurs dernières forces dans la bataille. Il faut tout faire pour convaincre l'électorat. Et puis, il faut rappeler que le scrutin ici en Gambie, c'est un scrutin à majorité simple. Alors, ça devait entrer dans la réforme constitutionnelle, mais finalement, ce projet de réforme constitutionnelle a été rejeté. Alors donc, ce scrutin est à majorité simple. Alors le climat dans le pays est quand même apaisé, c'est calme, c'est tranquille. Certes, il y a des pics, mais globalement, tout se passe très bien.
Le président Adama Barrow est candidat à sa propre succession. Comment est-ce que sa présidence est appréciée par les Gambiens dans ce contexte? Il a en face des ténors comme Ousseynou Darbo.
Alors, son bilan est mitigé. Économiquement, il n'y a pas eu beaucoup de réalisations durant son magistère. Le pays quand même connaît toujours cette crise née de la fin de règne de Yahya Jammeh. Le chômage est endémique. Il y a la santé, l'éducation. Ce sont des sujets quand même qui restent quand même toujours prioritaires dans ce pays. Le seul peut-être point où on peut dire que c'est un acquis quand même sous son règne, c'est la démocratie quand même et puis une certaine tranquillité dans le pays, car sous Jammeh c'était la paranoïa, le règne de la terreur, et là par contre la parole s'est libéralisée. Il y a une multitude de médias qui sont nés sous son magistère, ça quand même c'est à son crédit. Il faut dire aussi dans le pays il y a quand même aussi certaines améliorations du climat des affaires.
Quels sont les thèmes qui ont été abordés pendant cette campagne et quel impact l'ancien président Yahya Jammeh, qui est en exil, peut avoir dans l'issue de cette élection?
Beaucoup de thèmes ont été abordés durant cette campagne, mais il faut dire que dans ce pays, tout reste prioritaire, la santé, l'éducation, l'emploi, les infrastructures. Alors, quant à la capacité d'influence du président sortant, elle est relative de plus en plus. Alors, le président était quand même rangé aux oubliettes. C'est son successeur Adama Barrow qui l'a un peu, entre guillemets, ressuscité parce que nouant une alliance avec son parti, il a fait volte-face pour dire qu'il désapprouve cette alliance. Alors aujourd'hui, il a adoubé Mama Kandé, un opposant qui était venu quand même troisième à la dernière présidentielle. Il ne cesse de lancer des messages, des piques à son successeur durant le meeting. Ce qui se passe, c'est que le candidat en question, Mama Kandé, l'appelle et on l'entend par téléphone où il harangue les populations.
C'était le journaliste Amadou Barry à Banjul.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Le convoi militaire français est finalement arrivé à Gao, au Mali, dans la nuit de dimanche 28 novembre 2021, après avoir été bloqué au Burkina Faso et au Niger. Comment la population de la cité des Askia a-t-elle réagi à l'arrivée du convoi militaire français à sa destination finale? Pour en savoir plus, Modibo Dambélé a joint une dame à Gao qui a requis l'anonymat.
Le convoi militaire n'a pas été accueillis à Gao, puisqu'il n'y a pas eu de manifestation ni de sortie.
Pourquoi les gens de Gao ne sont pas sortis, selon vous?
Je dirais que c'est un manque de communication, puisque ça fait quelque temps qu'on n'a pas la connexion d'Internet ici en Gao. Et aussi que je ne pense pas que cela intéresse beaucoup trop la population comme les Français sont venus ou pas.
Comment expliquez-vous que cela n'intéresse pas la population de Gao lorsqu'on sait que les militaires français sont là pour assurer la sécurité de la ville?
Les militaires français, on entend tout le temps qu'ils sont là pour la sécurité de la population, mais sur le terrain, franchement, on ne voit rien. Aucune efficacité, aucun résultat concret. Ils disent tout le temps qu'ils ont fait des frappes aériennes, peut-être dans les 2 heures. Mais rien de concret sur les différents actes de voyage ou en ville. La population a assez poussé le temps, a assez marché tout autour, mais rien n'a changé. Donc je pense que franchement, ces derniers temps, ça n'a plus rien que les bases françaises passent toujours à Gao.
Actuellement, comment se présente la situation sécuritaire à Gao?
La situation sécuritaire en ville, ça va un peu mieux. Ces quelques semaines, ils ont été arrêtés les attaques et autres, mais toujours que ça continue, les braquages et autres, les actes de voyage.
Comment est la ville après l'arrivée du convoi militaire français à Gao?
Honnêtement, la ville, quand on couvre, rien n'a fait, on n'entend d'ailleurs même pas, on ne vient pas, même pas conseiller les militaires français qui avaient quitté sont arrivés. Je dirais que c'est passé inaperçu, justement parce qu'il n'y a pas de télévision. Tout se passe sur les différents réseaux sociaux, les gens ont l'information à travers les différents réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp et autres. Et Gao est carrément coupé du monde. Quand on n'a pas la connexion, ni Orange ni Mantel ne marche. Les radios locales et la chaîne, les deux chaînes nationales, ORTV et ORTMT, ne font pratiquement pas passer ces heures d'information que Niger et Burkina ont manifesté pour que les Français ne passent pas pour arriver à Gao et autres. Et donc, il n'y a pas eu d'information, pas de communication là-dessus. Donc, c'est passé inaperçu.
Donc, vous pensez que c'est le déficit de communication qui a fait que Gao n'est pas sorti?
Je ne peux pas dire tellement. Non, même si la communication avait passé, est-ce que cela intéresse vraiment la population de Gao, les Français soient là ou pas? Et aussi cela en fait.
Et qu'est-ce qui intéresse alors Gao?
Gao réclame juste la sécurité. Gao demande à ce qu'on puisse voyager tranquillement sans être dépouillé de ses biens, que tu puisses vaguer normalement en ville sans être ciblé par des hommes armés non identifiés et pour pouvoir entreprendre surtout. Puisque de nos jours, à Gao, personne ne peut entreprendre. Tu devais un entrepreneur, 2 ou 3 jours, on te cible et puis on te tue maintenant.
C'était la réaction d'une résidente de Gao, jouant au téléphone par Modibo Dembélé.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVO Afrique, 24h sur 24.
Le Covid-19 a fait chuter le dépistage du VIH de 22% dans le monde, selon le rapport du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Cette tendance est réelle au Cameroun et oblige des associations de prise en charge des patients du VIH à se redéployer sur le terrain, comme on peut le voir dans ce reportage réalisé à Yaoundé par notre correspondant Emmanuel Jules Tap, relaté par Lionel Gaïma.
Ce jour, l'équipe de l'association Humanity First entame une campagne de sensibilisation sur le dépistage du VIH. Le point de chute est un marché de Yaoundé. Au bout d'une heure, une dizaine de personnes acceptent à se faire dépister. Singbou Roberta Milène est père éducateur de Humanity First Cameroun Plus.
Nous avons choisi particulièrement ici parce que c'est un endroit où nous trouvons plus les UDI. UDI, ça veut dire les usagers de drogue. Et comme nous savons tous que le sexe n'est pas le seul moyen pour pouvoir contracter le VIH, il y a aussi un passage par des seringues, par des lames et tout et tout. C'est pourquoi nous avons choisi cet endroit pour venir faire le dépistage.
L'association Humanity First Cameroun œuvre pour la rupture de la chaîne de transmission du VIH. Dès le mois de mars 2020, ces activités de dépistage ont été impactées par la pandémie du Covid-19. Orlish Matt est responsable du suivi évaluation Humanity First.
Avant, les statistiques étaient très bas pour l'année dernière. Enfin, lorsque la Covid était encore à son apogée, c'était très bas, allant de la mobilisation jusqu'à même l'initiation aux antirétroviraux et pour tout autre service, c'était vraiment très bas. Je dirais ça a drastiquement baissé de 50%.
Brice Bissot est aussi père éducateur de Humanity First Cameroun Plus.
Le travail pour nous n'était plus comme on avait toujours l'habitude de faire parce qu'il ne fallait pas rassembler un certain nombre de personnes pour mobiliser ou bien sensibiliser. Donc, du coup, on a eu un frein, ce qui a fait en sorte que le travail s'est un peu retardé.
C'est aussi de l'avis de Michel Etemé qui est conseiller psychosocial à Humanity First.
au niveau des personnes qui viennent prendre leurs médicaments ici à l'OBC, que ce soit même en formation sanitaire. Il y a eu une chute, on a constaté une chute vu la Covid et d'autres qui disaient avec des préjugés que c'était déjà une forme de Covid, des médicaments Covid qu'on donnait aux gens.
Responsable de la chaîne de prise en charge des patients atteints du VIH et des maladies opportunistes, Sophie Ngomfo, médecin généraliste, reçoit aujourd'hui en moyenne 7 patients contre 2 en pleine pandémie de Covid.
À cette période, les gens avaient peur de plus de la Covid. Quand tu parlais du VIH, les gens n'étaient pas trop intéressés. C'était uniquement la Covid. Quand on allait vers les gens et demandait que je veux plutôt faire le test de Covid, je veux savoir mon statut Covid plus que le statut VIH, ça n'intéressait pas beaucoup les gens. Maintenant, comme les choses sont un peu plus en train de se vulgariser, les gens ont accès aux tests, les gens ont essayé des mesures de prévention, la vaccination qui est venue beaucoup aider aussi.
L'an dernier, plus de 496 000 personnes vivaient avec le VIH au Cameroun pour un taux de prévalence de 2,7%. Le Covid a, pour sa part, fait plus de 1 700 morts depuis mars 2020.
Le 1er décembre, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida. Des progrès ont été accomplis dans le traitement des personnes infectées, mais un remède pour le VIH reste difficile à trouver. Le reportage de Laurel Bowman de VOA, le récit avec Eric Manirakiza.
Dans le monde, environ 38 millions de personnes vivent avec le VIH. Depuis l'identification du virus en 1984, plus de 36 millions de personnes sont mortes de maladies liées au VIH ou au sida. Chaque 1er décembre, de nombreuses personnes réfléchissent à la lutte contre l'une des pandémies les plus destructrices de l'histoire. Le docteur Chloé Orkin, professeur à l'université Queen Mary de Londres, a longtemps étudié le VIH.
The state of affairs globally is very much a situation of the haves and the have-nots.
L'état des choses au niveau mondial révèle beaucoup plus une situation de nantis et de démunis pour les personnes qui vivent dans des endroits où le traitement n'est pas gratuit, où les traitements sont encore très anciens, des traitements avec beaucoup d'effets secondaires. Les gens ne s'en sortent pas si bien. Et sans traitement, le VIH reste une maladie qui emporte des vies.
Les experts affirment qu'un traitement efficace empêche les personnes infectées de transmettre le virus. Ils affirment également que dans le monde entier, plus de 50% des personnes vivant avec le VIH sont des femmes et que 1,3 million de femmes séropositives seront enceintes. Un traitement efficace peut empêcher la transmission du virus à l'enfant à naître. Le docteur Orkin de Grande-Bretagne a dirigé un effort mondial pour mettre au point le premier traitement à action prolongée contre le VIH. Elle affirmait que des traitements tels que des injectables pris une fois tous les 2 mois sont disponibles.
But where I live, it could amount to 6 treatment days a year.
Là où je vis, cela pourrait représenter 6 jours de traitement par an pour une personne séropositive. Ce qui est très différent de devoir prendre un traitement 365 jours par an. Il s'agit donc d'une véritable percée.
Des chercheurs américains sont à la recherche d'un remède en étudiant des patients séropositifs dont le système immunitaire combat le VIH sans médicaments. Le docteur Bruce Walker est directeur de l'Institut Reagan à Boston. Il étudie les patients atteints du VIH depuis 4 décennies.
Il s'avère que certaines personnes sont capables de garder le VIH sous contrôle grâce à leur propre système immunitaire. Et cela nous a vraiment mis sur la voie d'essayer de comprendre comment cela est possible.
Les financements et l'attention étant désormais concentrés sur la pandémie de COVID-19, le dépistage du VIH est en baisse et les essais ont été interrompus, des évolutions qui inquiètent les spécialistes du VIH et les personnes atteintes de la maladie.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Josèle Morissin, Lionel Gaïma et Georges Léonard Sagno. Au micro, Pierre Morin-Gibourg. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations 24h sur 24, un seul site internet, voafrique.com, sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.